grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse en direct ou en podcast. Et ce matin, nous allons modestement vous aider à être un peu plus ambitieux dans la vie. Pas au sens arriviste de Rastignac, le fameux personnage de Balzac, ou de Bellamy, le héros de Maupassant. Il s'agira plutôt d'une saine ambition, soucieuse des autres, qui permet de se réaliser en accord avec soi-même. Car avoir de l'ambition n'est pas forcément un gros mot. L'ambitieux a certes mauvaise réputation, mais il n'a pas forcément les dents qui rayent le parquet, il n'est pas forcément prêt à vous marcher dessus pour arriver à ses fins, il n'est pas forcément cupide, avide de pouvoir, de position sociale et de prestige. À rebours de ses conceptions négatives, nous verrons que l'ambition, c'est avant tout une réalisation de soi qui permet d'être à l'écoute de ses désirs les plus profonds, sans peur ni reproche. Nous verrons ce matin comment développer une saine ambition, comment ne pas la ravaler au nom d'une injonction sociale, professionnelle ou familiale, quels sont ses obstacles, quels sont les pièges d'une ambition dictée par l'extérieur, peut-on vraiment apprendre à être ambitieux, et puis est-on forcément obligé d'avoir de l'ambition dans la vie. Si vous avez du mal à être ambitieux, n'hésitez pas à témoigner et à poser vos questions au chercheur en psychologie Ilios Kotsou, au professeur en management Dominique Steller et à notre psychiatre Christophe André au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Si une absence totale d'ambition vous satisfait dans la vie, appelez-nous également. Et puis vous retrouverez les questions pertinentes de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Belle année à vous Christophe.
Merci, et à vous.
Le thème de l'ambition a évidemment nourri vos choses vues.
Oui. Alors bon, moi j'avoue que j'ai des difficultés avec le mot ambition et c'est de ces difficultés que je vous parlerai.
A tout à l'heure Christophe André, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebi.
Bonjour Ilios Kotsou.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en psychologie des émotions à l'Université Libre de Bruxelles. Bonjour Dominique Steller.
Bonjour.
Vous êtes professeur en management à la Grenoble École de Management et vous avez tous les deux collaboré à l'ouvrage Vraiment ambitieux chez The Book. Alors en préparant cette émission, je me suis penché sur plusieurs définitions de l'ambition. Le Robert nous dit que c'est le désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour propre. Pour le Larousse, l'ambition c'est le désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose. L'ambition dans cette acception a un peu mauvaise réputation, Ilios Kotsou. Elle est un peu, oui. Non pas négative, mais elle est tournée vers le matériel.
Oui, et on dit d'ailleurs être brûlé par l'ambition, et je pense que l'ambition telle que définie par ce dictionnaire, ce n'est pas quelque chose que je recherche, et ce n'est pas quelque chose qui est à rechercher. Donc je comprends que Christophe nous dise qu'il a des problèmes avec ce mot. Et toute l'idée ici de l'ouvrage a été de définir l'ambition de manière différente, et on la voit plutôt comme une énergie qui nous pousse à avancer. Et avancer dans quoi? Dans le fait de prendre soin de nous-mêmes et de prendre soin des autres. Et donc c'est très différent. Alors bien sûr, dit comme ça, peut-être qu'on pourrait se dire qu'on aurait choisi un autre mot que celui d'ambition. Ceci dit, voilà, c'est comme ça qu'il a été créé.
Mais l'ambition est souvent synonyme d'arrivisme, Dominique Steller.
En tout cas, tel qu'il nous est présenté, oui. Si je regarde la formation de nos managers, dirigeants, élites, ce qu'on nous présente quand on nous parle d'ambition, c'est « dites-nous ce que vous voulez atteindre dans le futur ». Et ensuite, soyez piégé vous-même par ce que vous avez défini, parce qu'on va vous contraindre à l'atteindre. Alors que la façon dont Ilios vient d'en parler ressemblerait plus à cette idée de se réaliser chemin faisant.
Alors l'ambition est ambivalente. J'aimerais citer l'historien du catholicisme, Jules Lacroix de Marlès, qui résume bien cette ambivalence. On doit distinguer dans l'ambition deux natures, l'une élevée, généreuse, presque magnanime, l'autre jalouse, inquiète, basse et très peu délicate dans le choix des instruments qui la servent. Ilios Kotsou.
Oui, et on pourrait, ça me fait penser à des études qui ont montré que lorsqu'on est ému par ce qu'on appelle des buts ou des valeurs extrinsèques qui ressemblent à la recherche de pouvoir, de biens matériels, on se compare aux autres, de célébrité, ça nous amène non seulement à des comportements qui sont contraires à notre bien-être, mais qui sont contraires au bien-être des autres. On sait par exemple que la comparaison sociale, c'est quelque chose qui nous amène à mentir, à tricher, à ne pas reconnaître nos difficultés, et donc à mal nous comporter individuellement et socialement. Donc, dans ce sens, bien sûr. Alors, si on regarde l'autre, on parle de l'autre côté de l'ambition, ça ressemblerait plutôt à ce qu'on appelle la poursuite de valeurs ou de buts intrinsèques. On va plutôt rechercher le développement personnel et puis le bien commun, comment nous comporter de manière juste en tant que citoyen et que citoyen. Ce qui est très, très différent. Et donc, on peut avoir de l'ambition dans les deux cas, avec des résultats très différents.
Christophe Omri.
Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, puisque nos deux invités sont vraiment très, très sympathiques et se sont donnés pour tâche compliquée de défendre ce mot ambition. Pourquoi, dans ce cas, on ne parle pas d'aspiration? Parce que c'est vrai que ce mot ambition est tout de même un petit peu pollué par tous ces arrière-plans d'arrivisme, de désir, au fond, d'atteindre à tout prix ces objectifs. Quelle différence vous feriez donc entre ambition et aspiration, puisqu'Ilios Kotsou parlait tout à l'heure du désir d'atteindre le bonheur, de le faire partager à d'autres personnes. En quoi est-ce une ambition plutôt qu'une aspiration ?
Ilios Kotsou.
Alors, je pourrais vous donner deux réponses. La première est une réponse très pragmatique, c'est que je suis d'accord avec vous et que ce livre est un livre qui a été créé dans une collection britannique qu'on a revue et donc le titre était déjà là. Et si on m'avait demandé personnellement mon avis sur le sujet du titre, eh bien je serais complètement d'accord avec vous. Moi-même, le titre me dérangeait un petit peu. Mais le titre était là et donc et le contenu du livre, je pensais juste, donc au-delà, il y avait deux choix, ou alors on ne défend pas le livre parce que le titre nous dérange, ou alors on se dit comment est-ce qu'on peut prendre ce mot qui est vrai, il est chargé comme tellement de mots et on peut montrer qu'il a différentes lectures possibles. Et c'est très juste, c'est le mot aspiration qui me parle. C'est à quoi est-ce qu'on est aspiré? Vers où est-ce qu'on a envie d'aller? Qu'est-ce qui est fondamental et important pour nous, vraiment? Qu'est-ce qu'on a envie de défendre? Et au fond, on pourrait se dire que la femme ou l'homme heureux, c'est quelqu'un qui vit en accord avec ce qui est important et fondamental pour lui, avec ses valeurs. Et que ces valeurs-là sont en général tournées vers les autres.
Dominique Steller.
Je vais prendre le même point de départ sur la difficulté par rapport aux mots, mais moi je suis dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de personnes qu'on a façonnées avec un regard particulier sur le monde jusqu'à aujourd'hui. Et il a au moins pour moi cet intérêt, ce mot-là, de ne pas brusquer trop fort, trop vite, et de permettre une porte d'entrée, de permettre une ouverture en fait. Si un étudiant dans une grande école d'ingénieur, de management, de Sciences Po, etc., aujourd'hui, je lui supprime ambition pour lui transformer aspiration, il va falloir que je lui reconstruise un contexte, il va falloir que je lui reconstruise une conceptualisation de qu'est-ce que je suis en train de dire avec ça. Par contre, si à partir d'ambition qui lui laisse au moins cette petite place du combat, cette petite place de « j'ai besoin de faire effort », ce qui n'est pas très simple aujourd'hui hein, dans le monde du travail, les étudiants, ou les futurs managers, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est ne pas être routinier. Ne pas être routinier, ça veut dire quelque part, je suis pas prêt à reproduire et à avancer sur quelque chose qui va devoir me faire transpirer pour que je puisse aboutir. Ambition permet de garder un petit peu cet élément-là, et ensuite, l'ouvrage nous permet de dire, ben, cette ambition, en fait, elle ressemble plutôt à une aspiration. Donc, c'est pas un rejet du mot, en termes de c'est plutôt un rejet du mot en termes de forme en fait, mais pas un rejet du mot dans ce qu'il peut permettre.
C'est-à-dire, c'est vrai qu'ambition, c'est comme le stress finalement, ce sont des mots à propos desquels il est nécessaire de présenter une défense. C'est-à-dire, il y a le bon stress et le mauvais stress, il y a la bonne ambition et la mauvaise ambition, c'est un peu ça finalement votre position. Et donc, au fond, ben, je suppose que votre discours, c'est de dire il y a une bonne ambition et en voici les critères.
Et la bonne ambition que vous défendez, c'est ce voyage intérieur qui permet de trouver le meilleur de soi, Ilios Kotsou.
Oui. Et on pourrait d'ailleurs, en parlant de mauvaise et bonne ambition, on pourrait dire que faire toujours mieux, c'est peut-être aussi lié à la mauvaise ambition qui nous amène au burn-out, aux difficultés à nous brûler. Et souvent, parce qu'il y a ces motivations extrinsèques, on sait au fond pas très bien pourquoi on les fait. On les fait parce qu'on se compare aux autres, parce qu'on veut être le meilleur. Alors que la bonne ambition, ça serait donner le meilleur de soi-même. Et le meilleur de soi, c'est le meilleur de soi dans le moment, là où on est. C'est-à-dire, ça part d'une connaissance, d'abord d'une connaissance de soi, pas seulement de notre manière de fonctionner, mais aussi de ce qui est fondamentalement important pour nous. Qu'est-ce qui donne du sens à l'existence?
Moi, ce qui m'intéresse chez l'ambitieux, c'est cette volonté indestructible, Dominique Steller. Il est mu par une volonté en acier trempé. Je crois que les Anglais utilisent le terme de grit, G-R-I-T, grit.
Pour revenir à cette idée de puissance qui est dans le mot, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en disant on va garder le mot parce qu'au moins, il lui donne une part de cette énergie qui va être nécessaire si je veux pouvoir avancer sur ce chemin. Tout à l'heure, quand je disais ambition, j'ai plutôt tendance moi à le voir comme étant je progresse chemin faisant et je vais avoir besoin de cette même énergie si je veux avancer chemin faisant. Je suis un peu gêné par ce qui vient d'être échangé sur la dimension de bon et de mauvais, qui crée vraiment encore une fois quelque chose de binaire. Et on est déjà dans une culture qui fait ça très très facilement. Donc je pourrais imaginer qu'un auditeur qui nous écoute là se dit, oulala, il va falloir encore une fois que je vienne faire pour moi à bien choisir sur laquelle je suis. Et Héraclite, déjà, ça remonte à loin. Héraclite disait finalement, toutes les choses se construisent par concorde et discorde. Donc ce bon et cette mauvaise ambition, pour moi, ils sont un peu imbriqués. Et certainement qu'une partie du chemin, ça va être de retrouver chez moi qu'est-ce qu'il y a dans cette ambition qui peut faire défaut, qui peut me mettre en difficulté, et qu'est-ce qu'il y a dans ce chemin qui se construit, qui va me permettre de m'épanouir un petit peu plus.
Allez, si vous avez du mal à être ambitieux, n'hésitez pas à témoigner et poser vos questions au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Et si, à contrario, une totale absence d'ambition rythme vos vies, eh ben, n'hésitez pas à nous appeler également. La préparation de cette émission, Alexa Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation, Stéphanie Texier. Rita Mitsouko, Marcia Baila.
Mais il faut mériter les choses dans la vie. Il faut retrouver le goût de l'effort.
Grand bien vous fasse.
Et c'est-à-dire que cette année, je suis motivé.
Sur France Inter.
10h20 et ce matin, nous allons vous aider à être un peu plus ambitieux dans la vie, pas au sens arriviste, mais dans le sens d'une saine réalisation de soi. N'hésitez pas à nous appeler, à témoigner au 01 45 24 7000.
Pourquoi voulez-vous naviguer vers l'ouest ?
Pour ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie. L'Asie est le plus riche des royaumes, la terre des épices et de l'or.
Il vous faut la bénédiction de cette commission. Si elle vous dit non, il faudra abandonner ce rêve, mon fils.
Je n'abandonnerai jamais.
Serait-ce de l'ambition ?
Ah, on nous raconte tellement de mensonges depuis des siècles. On vous a dit que ça, c'était aussi plat que cette table. On nous a dit que des monstres gardent l'abîme. Je refuse qu'on me dise de quoi je vais avoir peur ou de quoi je ne vais pas avoir peur, voilà. Je veux le découvrir par moi-même.
Alors espérons que votre passion se montre contagieuse, mon fils.
La grande et belle ambition de Christophe Colomb dans le film de Ridley Scott. Alors, Ilo Scottsou, je rappelle que vous êtes chercheur en psychologie des émotions, Dominique Steller, professeur en management. Dans son beau livre Les Découvreurs, l'américain David Burstein raconte les destins de Christophe Colomb, Einstein, Kepler, Newton, portés par une ambition et des idéaux élevés. Toutes les grandes avancées de l'humanité sont en partie liées avec l'ambition, Ilo Scottsou.
D'une certaine manière, oui, et on pourrait aller voir les théories de la motivation, en se disant qu'il y a une certaine forme d'ambition qui est portée davantage par la punition et la récompense. C'est tout à fait extrinsèque, et donc on peut faire de grandes choses, mais uniquement par la peur d'une punition, même le fait de ne pas être reconnu, et ainsi de suite. C'est peut-être pas l'ambition qui nous amène à être le plus épanoui et faire du bien aux autres. Puis il y a une ambition qui est davantage portée de manière intégrée par ce qui est vraiment important pour nous. C'est-à-dire quelqu'un qui est en accord avec ce qui est profondément important pour lui, la découverte, la curiosité, et ainsi de suite, comme tous ces grands découvreurs, ou alors, encore plus intéressant, une motivation intrinsèque qui est je fais quelque chose pour le plaisir même de le faire. C'est la découverte en elle-même qui est importante, plus qu'uniquement l'objectif. Et donc ces deux types de motivation peuvent être liés à une ambition qui nous amène à faire de très grandes choses, mais en même temps de manière beaucoup plus équilibrée pour nous-mêmes et peut-être pour les autres.
Dominique Steller.
Oui, en fait, en écoutant l'extrait tout à l'heure, là, j'ai entendu deux choses dans la première phrase qui étaient vraiment intéressantes. La première partie disait « ouvrir une voie ». Et dans cette ouvrir une voie, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'ambition, tel qu'on tente de la présenter là. Je rentre sur un chemin, j'ouvre, je découvre. Et cette voie-là, plutôt que de me projeter dans un futur idéal à atteindre qu'on retrouve dans le mot d'ambition qui écrase, elle est vraiment quelque chose de l'ordre du conatus de Spinoza, de cet élan intérieur. Ça ouvre sa voie et ça va vers l'élan intérieur. Puis à la fin de la phrase, qui était pour découvrir des richesses et de l'or, elle nous ramène à l'ambition telle qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire bien une ambition qui dit « je vais me battre, je vais peut-être écraser parce qu'au bout du chemin, il y a de l'argent, il y a du pouvoir, il y a de la reconnaissance et de la richesse. »
Christophe Ondrej.
Oui, oui, parce que tout de même, Christophe Colomb, son ambition n'était pas seulement de montrer que la Terre était ronde, c'était de ramener de l'or, de l'argent, des richesses, de conquérir des titres de noblesse grâce à ses découvertes. Donc, c'était pas une ambition dépourvue de quête d'intérêt personnel, tout de même. Puis on a vu les résultats aussi que ça a produit sur les populations indigènes qui, elles, étaient dépourvues d'ambition, qui en avaient moins sans doute et qui en ont pris plein la tête.
Ilo Scottsou, développer une saine ambition, ce n'est pas forcément atteindre des sommets.
Non, du tout. C'est pouvoir s'exprimer dans ce qui est important pour nous, parfois au quotidien. Une saine ambition, c'est juste pouvoir prendre du plaisir d'en faire ce que l'on fait. Alors, évidemment, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, ça paraît pas évident pour beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, d'hommes et de femmes, qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir le travail qui les épanouit, et ainsi de suite. Et donc la question, en étant réaliste, bien sûr, tout ce que je dis ne s'adresse pas aux personnes qui n'ont pas les moyens de vivre, parce que ça serait une plaisanterie. Alors là, bien sûr, il faut tenir ça en compte, mais une fois qu'on a les moyens de vivre, la question c'est comment, dans mon quotidien, en mettant peut-être un peu de présence dans ce que je fais, je peux retrouver du plaisir dans mon action. Comment je peux nourrir mes valeurs dans mes actes du quotidien. Dans ma manière, dans mon cas, de prendre soin de ma fille, de lui préparer à manger. Par exemple, il y a de l'ambition là-dedans pour moi, si je peux habiter pleinement ce qui est important pour moi. Et dans ce cas, je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète, je peux, dans des petites choses du quotidien, les faire avec cette forme de présence qui est ambitieuse.
Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, je m'interrogeais dans la sphère professionnelle, est-ce qu'on biberonne différemment les petites filles et les petits garçons à l'ambition? On le sait, dans le débat sur les inégalités salariales, un argument revient régulièrement pour les expliquer, à défaut de les justifier, eh bien, les femmes ne sont pas assez ambitieuses, en tout cas bien moins que les hommes, du coup, elles ne savent pas négocier leur salaire, elles ne savent pas demander une promotion, et ça fait vraiment partie de ces fameux 9% inexpliqués entre différence de salaire homme-femme.
Dominique Steller.
Ça, c'est une sacrée question, la problématique homme-femme. En tout cas, je vais la ramener dans ce qui est derrière la question qui dirait est-ce que les femmes ont moins d'ambition que les hommes. Ce qui est certain dans le monde professionnel, c'est que les représentations sont telles qu'on veut nous faire croire ou qu'on a peut-être conduit les femmes à ne pas oser certains endroits. Mais oser et ambition, je les mettrais pas tout à fait dans le même niveau. Par contre, dans des formations du supérieur sur des gens qui vont devenir des élites, quel que soit le monde dans lequel elles vont évoluer, peut-être que l'une des difficultés, elle est à la fois cette espèce de piège dans lequel les femmes sont guidées pour ne pas avoir le droit d'oser, et en même temps une espèce de remplacement, une espèce de transfert entre ce qui serait de l'ordre de la féminité, ce qui serait de l'ordre du masculin. Et tout à coup, une perte pour ces femmes de qui je suis, comment je fonctionne, et où est mon réel élan, en fait, en tant que femme.
Ilo Scottsou.
J'ajouterais qu'il y a aussi des... Pardon.
Non, non, je dis, je vous en prie.
Il y a aussi des questions sociales qui font que lorsqu'on fait des études, on se rend compte que de manière vraiment régulière, les femmes se sous-évaluent et les hommes se surévaluent dans tout. Et donc, il y a aussi comment notre société permet aux femmes de prendre leur place. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que je ne pense pas qu'elles manquent d'ambition, c'est aussi qu'elles valorisent d'autres choses. Elles valorisent davantage le travail en équipe et la communauté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des études montrent qu'on aurait intérêt, même financièrement, à mettre plus de femmes dans les comités de direction parce que les entreprises fonctionnent mieux. Alors, il faudrait confirmer si c'est toujours, mais certaines études l'avaient montré. Donc, je crois qu'il y a aussi un renversement des valeurs dans lesquelles on est. Et c'est pas seulement la société qui doit permettre aux femmes de prendre leur place plus haut, c'est aussi changer notre manière de voir ce que c'est le succès, la réussite et l'ambition, et de nous rendre compte que peut-être en laissant plus de place. Alors, bien sûr, le grand danger dans ce que je suis en train de m'écouter moi-même, c'est d'essentialiser les femmes et les hommes, ce qu'on pourrait me reprocher, mais c'est malgré tout de se dire si elles portent plus de valeurs de collectivité, c'est des valeurs dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de ça. Donc, on a besoin de plus de femmes, de plus de diversité.
Alors, je voudrais juste vous rappeler, je sais pas si vous vous souvenez de cette campagne absolument catastrophique de recrutement de l'éducation nationale, c'est pas si vieux, c'est 2011. Souvenez-vous, il y avait deux affiches. Il y avait d'un côté, je cite, Laura qui a trouvé le poste de ses rêves, et à droite, vous avez Julien qui a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Est-ce que vous vous souvenez de cette campagne recrutement de l'éducation nationale? Voilà. Est-ce qu'elle aurait lieu encore aujourd'hui? On referait cette erreur?
Oui, il y a des chances qu'on la referait. J'ai pas l'impression que les choses aient beaucoup changé depuis sur ces sujets-là.
Bonjour Florence de Digne-les-Bains, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Quelle est votre question, votre réflexion?
Oui, ma question, elle est simple et compliquée à la fois. À savoir, bon, personnellement, j'ai été quelqu'un de très ambitieux. Bon, j'ai plus de 50 ans maintenant et j'ai eu une vie très chaotique à cause de ça. Alors, mais ma question était, est-ce que l'ambition ne peut pas être aussi liée à vouloir s'insérer dans un système social absolument, et qui soit lié aussi à un système éducatif duquel on vient?
C'est intéressant.
Alors, peut-être
ça.
Plus, c'est par rapport au psychiatre, à Monsieur André, que je m'adresse.
Jean-Christophe André.
Oui, oui, bah, je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire, je crois que il y a des mots, finalement, qui sont porteurs de tellement de significations implicites, intuitives, d'une histoire tellement chargée, d'un usage quotidien tellement pollué, qu'on a vraiment intérêt à s'en méfier. Je crois que quand on prononce le mot ambition, effectivement, instantanément, viennent à notre esprit les images d'une société basée sur la compétition, sur la dominance, sur l'atteinte à tout prix de ses objectifs. Alors bien sûr, c'est peut-être un peu injuste pour le mot et puis pour certaines aspirations légitimes, mais je crois que vous avez parfaitement raison, ça sous-entend un certain type de société. Alors, est-ce qu'il faut justement changer de mot pour ne pas cautionner, valider ce type de société? Ben, c'est tout le débat qu'on est en train d'avoir ce matin.
Merci beaucoup Florence de nous avoir appelé. Alors quels sont les dangers, les vices de l'ambition? C'est quoi? C'est la démesure, l'orgueil, l'hubris au sens des Grecs. Puis c'est peut-être également de ne pas avoir conscience de ses limites et de ses faiblesses, et également d'être parfois irréaliste dans ses ambitions. Dominique Steller.
Je vais placer la question à deux endroits. Vous l'avez placé, vous, au niveau de la personne, et comme je suis docteur en management, je vais la placer aussi au niveau de l'entreprise. Bien entendu que si je la considère comme étant un but à atteindre qui serait déconnecté de mon lien social, du lien avec les autres, je risque d'aller dans ces écarts qui vont faire que mon ego va prendre plus de place que ma capacité à tisser du lien. Mais finalement, on retrouve exactement la même chose dans le modèle économique actuel. La chaire de recherche que je dirige s'intitule « Paix économique, pleine conscience et bien-être au travail ». L'idée de cette paix économique, la plupart du temps, quand on vient me contrer, on me dit « mais vous n'atteindrez jamais ce que vous voulez atteindre ». Et ma réponse est de dire « mais je ne cherche pas à atteindre quelque chose ». Quand on dit paix économique, on ne dit pas « voilà un nouveau modèle qui, si vous l'appliquez, il fonctionnera bien ». Ce qu'on dit, c'est « pouvez-vous, chemin faisant, jour après jour, mettre en place quelque chose qui vous permet d'être un peu plus proche de vos besoins, de nourrir un peu mieux ces besoins ?» Et ces besoins, entre autres, sont de créer du lien plutôt que de le détruire. Et si l'entreprise, si maintenant je parle de l'institution, de l'organisation plutôt que de la personne, finalement, si l'entreprise se concentre aussi sur des transformations de processus industriels qui lui permettent, par exemple, de passer d'un acheteur cost-killer dont le seul objet c'est de réduire des coûts au risque de détruire des fournisseurs, à un acheteur pacifié, un acheteur collaboratif qui va faire grandir, qui va faire s'épanouir son fournisseur en même temps que l'entreprise, on a là un chemin faisant qui permet à chacun d'entre nous de bien faire ce qu'il a à faire au sens artisanal de la chose, et faisant bien ce que j'ai à faire, je vais retrouver non seulement du sens individuel, mais aussi ce sens collectif qui va vers le bien commun.
Ilios Kotsous, sur les dangers et les vices de l'ambition au niveau individuel.
Je dirais, c'est de confondre le but et les besoins et les valeurs. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, on ne le fait pas. Personne ne veut de l'argent pour de l'argent lui-même. On ne veut pas atteindre une position pour la position en elle-même. On oublie que c'est parce qu'on a envie de vivre du lien, c'est qu'on a envie de créativité, on a envie de connexion, on a envie d'autonomie, on a envie d'amour et ainsi de suite. Et n'importe quel but n'est qu'un moyen au service de nos valeurs et de nos besoins, et pas le contraire. Lorsque c'est la finalité, lorsque c'est le but qui prend toute la place, on oublie au service de quoi est ce but. Et puis on se perd en route. Et c'est un peu comme si on avait remplacé la boussole intérieure. Notre boussole, c'est ce qui nous dit. Nos émotions nous renseignent sur le fait d'être proche de nos besoins fondamentaux et de nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Et on l'a remplacé par un GPS, et le GPS, on a mis la destination, et puis on va le suivre bêtement, entre guillemets, pour y aller. Et on oublie de vivre au quotidien ce qui est vraiment important pour nous. Ça me semble être un des pièges principaux. On ne nourrit plus ce qui est fondamental.
Alors vous défendez une ambition saine, hein, l'une des clés pour se réaliser. La première étape, c'est peut-être d'identifier quels sont les besoins non satisfaits qui nous permettent d'avancer.
Oui. Alors, il y a différentes théories de besoins. On peut penser à Maslow, par exemple, même s'il
Abraham Maslow. S'il et sa célèbre pyramide.
Voilà, célèbre pyramide. Même si maintenant on ne la voit plus comme quelque chose de hiérarchique, elle a quelque chose de profond qui est de dire, nous avons ces besoins fondamentaux et lorsque nous sommes frustrés dans la satisfaction des besoins, disait Maslow, nous pouvons être considérés comme étant malades. Alors, d'autres modèles nous disent, il y a trois besoins fondamentaux. On a besoin d'autonomie. De sentir que nous pouvons nous-mêmes déterminer nos comportements dans la vie. C'est le besoin d'autonomie. On a besoin de relations, bien sûr. Le besoin le plus fondamental, c'est le premier prédicteur du bien-être. C'est ce besoin relationnel de partage, d'échange, de nourrir ce besoin-là. Et puis, on a besoin de compétences aussi, de sentir que nous sommes compétents dans nos actions. Nous pouvons diriger, déterminer nos actions. Et quelqu'un qui peut nourrir ces trois besoins-là, c'est le moteur fondamental de nos vies et qui nous donne le sentiment que notre vie, bien sûr, a du sens, qu'elle vaut la peine d'être vécue.
Dominique Steller.
Là aussi, je vais partir d'Ilios sur la dimension individuelle pour aller vers la dimension organisationnelle. Aujourd'hui, une entreprise, dans son ambition, telle qu'on la conçoit de manière courante, c'est créer du profit comme une fin en soi. Si le monde économique conserve cette ambition-là, il va provoquer le propos des dirigeants qui vont nous permettre, il y a une dizaine d'années, de créer ce centre de recherche, qui viennent nous voir en nous disant, si on continue de faire des affaires de la manière dont on fait des affaires, nous allons nous détruire les uns les autres. Et le problème de cette ambition, il est là. C'est une destruction commune. Le centre de recherche s'appelle paix parce qu'en face de paix, il y a guerre. Quand on parle de guerre économique, tout le monde sait très bien ou imagine très bien ce qu'on veut dire et ça semble ne choquer personne. Dès qu'on parle de paix économique, ça semble choquer tout le monde. Quelle ambition nous voulons avoir si nous voulons avoir une ambition saine? Et quand cette entreprise dit « je veux faire des bénéfices », l'étymologie de bénéfice, c'est un bienfait. La question, c'est combien y a-t-il de maléfices dans vos bénéfices? Et si c'est mon ambition devient maintenant de me dire « tiens, et si dans ces bienfaits, dans ces bénéfices, je vais un peu chercher ce qui est en train de détruire, et ça peut être une destruction de la nature, du lien social ou de la personne, je vais pouvoir les réduire et remettre en place une ambition qui va vers le sens commun. »
Alors les plus ambitieux font souvent preuve de plus de motivation que les autres. La motivation, c'est l'un des moteurs de l'ambition, Ilios Kotsous. Et c'est quoi d'ailleurs la motivation en psychologie?
À nouveau, ça dépend comment on la définit, mais je pourrais dire que la motivation, elle vient de cette clarté de nos besoins et nos valeurs. Donc d'avoir cette boussole qui est bien claire. Je pensais en termes d'aller loin à des figures comme Mandela et Gandhi. On peut les voir quand même comme des gens très ambitieux quelque part. Vous imaginez que Gandhi s'oppose d'une certaine manière à la plus grande puissance militaire de l'époque, que Mandela, qui il est en prison pour s'opposer à la puissance de ce qui opprime les Noirs africains à cette époque-là. Donc ces gens ont une ambition quelque part, mais ce sont des valeurs très fortes en fait qu'ils défendent. Et ce qu'on va voir dans la vie de ces personnes-là, c'est qu'il n'y a pas de compromission. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui agissent au quotidien en cohérence avec les valeurs. Et c'est ce qui donne leur force énorme. C'est ce qui donne la puissance de leur motivation. C'est qu'elles sont connectées à quelque chose qui est terriblement important pour eux et qui les dépasse. Et donc, on pourrait dire, pour chacune d'entre nous, prendre le temps de s'arrêter régulièrement et de nous poser la question, au fond, qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit? Quelles sont les directions de vie qui comptent pour moi? Et qu'est-ce que je peux faire au quotidien comme petites actions pour nourrir ce chemin?
Il vaut mieux que ce soit une motivation intrinsèque? Alors, qui vient de l'intérieur, de nous-mêmes?
Oui, je vais aller dans les subtilités des théories de la motivation, puisque ce qu'on appelle intrinsèque, c'est vraiment je fais les choses pour le plaisir même de les faire. C'est-à-dire que si je suis musicien, je vais apprendre la musique, je n'apprends pas la musique pour devenir seulement un grand musicien, parce que je vais être puni par des parents qui veulent absolument que je travaille, mais parce que le fait de faire de la musique est en soi un plaisir. Et puis avoir une autre forme de motivation qui n'est pas tout à fait intrinsèque, mais qui est, je sais pourquoi je fais les choses, donc j'étudie en tant qu'étudiant, non pas parce que si j'étudie pas, je vais avoir un mauvais avenir, mais j'étudie parce que ça correspond à des valeurs profondes. J'ai envie plus tard de faire un métier qui va me permettre de faire du bien autour de moi. Je veux être médecin, ou je veux devenir enseignant. Ou peut-être que je nourris des choses de curiosité, et ainsi de suite. Et donc c'est une motivation qui n'est pas complètement intrinsèque, mais elle est intégrée à ce qu'il y a de profond en moi.
Et la persévérance, c'est l'une des clés fondamentales de l'ambition, cette persévérance qui permet de surmonter les incidents, les accidents, les contretemps, les cailloux dans la chaussure.
Oui, c'est lié à cette idée de sortir de la zone de confort, en fait. La zone de confort, c'est de rester dans toutes nos habitudes et de pas aller à ce qui nous confronte, se confronter à nos peurs. Mais quoi que l'on fasse dans la vie d'important, que ce soit élever un enfant ou diriger une entreprise, ça va nous confronter à nos peurs et à nos inconforts. Et sans pouvoir faire face à ces peurs et ces inconforts, il n'y a pas, je pense, de succès possible, même dans le sens noble du terme.
Comment devient-on persévérant quand on a tendance à abandonner au premier obstacle?
C'est Dominique ou c'est
Christophe André, tiens, ça tombe sur vous.
Ah, ça c'est, je crois que c'est un autre problème ensuite, hein, le problème de la persévérance. Mais c'est vrai, alors pour maintenant, quand on a bien pris le soin de remettre en question ce concept d'ambition, il faut reconnaître aux ambitieux cette capacité à persévérer malgré l'adversité, à vraiment ne pas renoncer alors que tout paraît difficile. L'exemple que donnait Ilios tout à l'heure de Mandela ou Gandhi, il est intéressant. Est-ce qu'ils ont parlé eux-mêmes d'ambition? Je n'en sais rien, mais en tout cas, si on observe leur combat, c'est un combat qui était tourné vers le bien commun, pas seulement vers la poursuite de leur réussite personnelle, et c'est un combat qui, au départ, était totalement disproportionné, inégalitaire. C'était David contre Goliath. Donc, s'il faut reconnaître des vertus à certaines formes d'ambition, effectivement, la persévérance et le courage peuvent en faire partie.
Allez, il est l'heure de retrouver vos chaussures, Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Christophe André, que vous inspire notre thème du jour?
Eh bien, il y a comme ça des personnes qui nous apparaissent sympathiques au premier abord et d'autres qui font se lever en nous un peu d'antipathie. Tout ça n'est pas gravé dans le marbre et peut changer par la suite. C'est même bien de changer d'avis par rapport à une antipathie initiale. Mais l'antipathie intuitive, ça existe et c'est un peu pareil pour les mots. C'est très subjectif, bien sûr, et dans mon cas, par exemple, il y a des mots qui me ravissent, comme fraternité, bienveillance, partage, et d'autres qui me hérissent, comme performance, challenge, croissance et ambition. À mes yeux, ce sont des mots pollués, trop souvent prononcés dans des contextes de compétition par des personnes prêtes à marcher sur la tête des autres. Des mots qui traînent derrière eux des zones d'ombre. C'est plus fort que moi, mais dès que mes oreilles entendent le mot ambition, mon cerveau y accroche d'autres mots comme arrivisme, cynisme, égoïsme, ou obsession, agression, aliénation. C'est sans doute injuste et je sais bien qu'il s'agit de jugement de valeur sur un concept au départ neutre. L'ambition se définit simplement comme le désir puissant de réussir. Mais l'ambition n'est pas une rêverie, elle est une mise en énergie et en action de ce désir. L'ambition, c'est un peu comme rouler trop vite en voiture, comme appuyer trop fort sur l'accélérateur du désir de réussite. On augmente les risques de dérapage et d'accident au lieu de regarder un peu le paysage et de savourer la vie tranquille.
Aujourd'hui, tu balottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour, où est-il ? L'ambition avait loin, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte.
Voilà, l'ambition a des lois, l'ambition est un culte, nous dit Françoise Hardy. Et elle est dans la lignée de Montesquieu, qui écrivait dans ses cahiers « Un homme n'est pas malheureux parce qu'il a de l'ambition, mais parce qu'il en est dévoré. » Et comme eux, nous avons tous observé des humains dévorés par leur propre ambition et semant de ce fait désordre, souffrance et conflits dans leur vie et tout autour d'eux. C'est dommage car il est normal d'avoir des projets et de souhaiter les voir aboutir, mais il y a sans doute des conditions pour éviter que l'ambition ne conduise à l'aliénation et à l'agression. La première de ces conditions, c'est de ne pas sacrifier sa vie à son ambition et de préserver de nombreux moments paisibles et sans enjeu, des moments où il n'y a aucun objectif à atteindre et rien à réussir. La seconde condition, c'est de choisir un objet d'ambition qui ne soit pas empoisonné dès le départ. Ainsi, les ambitions de réussite, de richesse ou de notoriété sont déjà suspectes et toxiques en elles-mêmes. Pas besoin de vous faire un dessin. Finalement, la seule ambition que nous devrions avoir, c'est de nous défaire de ces ambitions-là pour nous tourner vers des aspirations plus intimes, de progrès personnel, exceller dans son métier, ses loisirs ou son humanité. Et revenir finalement à la formule du philosophe Spinoza qui représente, selon moi, la plus belle ambition pour une vie humaine. Bien faire et se tenir en joie. Rien de mieux à mes yeux. Et vous, cher Ali, quelles sont les ambitions qui habitent votre vie ou qui la dévorent?
Ah, en ce moment, réussir le fondant au chocolat.
Bon,
enfin, trouver la recette
ne fera
parfaite.
De mal à personne.
C'est ma grande ambition en 2019. N'hésitez pas à m'envoyer vos recettes de fondant au chocolat d'ailleurs. Toutes les choses vues de Christophe André sont à voir en vidéo sur le site et la page Facebook de France Inter. Si vous avez du mal à être ambitieux, n'hésitez pas à témoigner et poser vos questions au chercheur Ilios Kotsou et au professeur en management Dominique Steller, 01 45 24 7000.
Ah bah toi t'es le plus beau, mais t'as jamais rien trop fait. C'est facile quand on vit pas grand chose et on ose effriter les trophées. Quand on est trop bien assis à juger les travaux finis, toi t'as tout dit, t'as rien pris, mais tu parles tout comme si, puis tu prônes t'es au-dessus, que tout ça c'est de la rime à deux balles et demi mots, que t'as même jamais lu t'y. Qu'à continue de cracher, t'en auras presque plus. De ta salive, j'en ferai des glisses à perte de vue. Après ça, t'écriras quoi? Toujours tes problèmes à régler. T'étoufferas tes gros poids que t'essaies de faire porter, que t'essaies tout cacher de l'écran où t'envoies des PD, des TG sans même savoir l'orthographier. Je resterai insensible. Je resterai insensible. Face à tes cris sans moi, que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand ta voix. Il y a ceux qui proposent, il y a toi qui n'ose pas, qui reste dans son coin sans jamais faire de faux pas. Plus tu critiques, plus j'encaisse bien. J'aime savoir qu'il y en a qui ne mangent pas de mon pain. Plus j'ai déjà lu que je ne passerai même pas l'hiver, que j'étais qu'un pédé roux sans dents et dans la galère. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire de moi, car je serai encore bien là quand t'auras tout dit de toi. Car je pense qu'il va falloir t'y faire, car je pense avoir bien plus pour te plaire. Car j'aime te faire couler de l'encre à t'en faire chanter, l'air qui te trottera dans la tête jusqu'à dire que t'en es. Je resterai insensible, je resterai insensible face à tes cris sans moi, que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies. Ça fait des BABA, des bien plus grands que toi. Ça fait un tabac qui se consume trop sans moi. Ça fait des BABA, juste du brouhaha qui je crois parle de moi, mais je ne m'y vois pas. Insensible, insensible. Je resterai insensible, insensible face à tes cris sans moi, que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies.
Edith de Préto interprété Sensible.
France France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
11h moins le quart et ce matin nous allons vous aider à être un peu plus ambitieux dans la vie. Question témoignage au 01 45 24 7000.
Judy, tu t'es jamais demandé pourquoi on a toujours été heureux, ta maman et moi ?
Non, papa.
Eh bien, on a renoncé à nos rêves et on s'est adapté. Hein, Bonnie ?
Oh oui, c'est vrai, on a travaillé dur.
Tu vois, il faut savoir se contenter de ce qu'on a, Jude. Mais pour apprendre, il faut essayer et parfois échouer.
J'aime bien essayer, en fait. Ce que ton père veut dire, chérie, c'est que ça va être difficile et même impossible pour toi de devenir officier
oui,
de police.
Il n'y a jamais eu de lapin flic.
Non.
Les lapins font pas ça.
Jamais.
Jamais.
Oh, alors il faut que je sois la toute première parce que moi... Je vais rendre le monde bien meilleur.
Tiens, tu sais, puisque tu parles de rendre le monde meilleur, quel meilleur moyen de le faire qu'en cultivant des carottes?
Oui. Ton père, moi et tes 275 petits frères et sœurs, nous changeons le monde.
Oui.
Une carotte à la fois.
Bien parlé. Planteur de carottes est une noble profession.
Le fait de planter une graine dans la terre.
Non, ne faire qu'un avec le sol et rentrer tout couvert de boue.
Oui, mon chéri, c'est très bien d'avoir des rêves.
Oui, les rêves, c'est bien joli, tant qu'on n'y croit pas trop.
Extrait du dessin animé Zootopie. Alors, Ilios Kotsou, je rappelle que vous êtes chercheur en psychologie des émotions, Dominique Steller, professeur en management. Qu'est-ce qui empêche de réaliser ses ambitions? Il faut parfois remonter à l'enfance sans faire de la psychanalyse de comptoir, Dominique Steller. Le rôle des parents est essentiel, évidemment.
Certainement, et je laisserai ce terrain de la psychologie à mes deux confrères. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est tout à l'heure, quand vous avez, vous, parlé d'ambition et de persévérance, on a senti dans votre ton qu'il y avait quelque chose de très fort. Être ambitieux, être persévérant, surmonter. Une des premières choses qui, pour moi, va empêcher, c'est on alloue à la personne une condition particulière qui serait fixe, générale et infinie. C'est quelqu'un d'ambitieux. C'est terminé, c'est comme ça, ou c'est quelqu'un de non ambitieux. Alors qu'on n'est jamais dans ce sens-là. C'est la même chose si on dit de vous, vous êtes courageux. Une fois qu'on vous a dit vous êtes courageux, vous n'avez plus le droit d'être fragile. Je crois que dans cette dimension d'ambition qu'on est en train de toucher avec la forme qu'on essaie de lui donner, on a besoin aussi de pouvoir réintégrer nos fragilités, nos vulnérabilités. Et c'est parce qu'on les réintègre que peut-être ce chemin va pouvoir se faire.
Il y a ce qu'au-dessous sur le rôle des parents, de l'entourage, de la famille, des amis, qui peuvent parfois freiner les ambitions.
Bien sûr, c'est fondamental. Les croyances, les limites qu'on a, on va les porter évidemment sur les enfants, sur notre entourage. Et en même temps, je trouvais cet extrait très chouette, et on pourrait tellement dire, il y avait l'action du contentement, et qui était mis de manière négative, alors que pour moi, se contenter, ce n'est pas limiter nos ambitions, c'est pouvoir être content du chemin, c'est un très beau mot, le contentement. Et si on parle de ce qui permet l'ambition, je dirais que l'idéal, c'est tellement important, d'avoir un rêve et un grand idéal, c'est essentiel d'avoir un idéal, et en même temps, ça ne va pas, l'idéal ne va pas sans l'humilité et l'interdépendance, parce que pour moi, l'interdépendance, c'est se rendre compte que de toute façon, on est liés les uns aux autres, et qu'on n'ira jamais au bout de n'importe quelle ambition tout seul. Et l'humilité, c'est de nous rendre compte que, quoi que l'on fasse, on ne peut pas contrôler la finalité. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est donner le meilleur de soi-même. Et lorsqu'on apprend à laisser tomber notre obsession du but final et des résultats pour nous concentrer sur l'action elle-même, je pense que ça nous amène non seulement à vivre mieux, mais à maximiser les chances d'aller quelque part. Et je pense qu'il y a vraiment un très grand secret là-dedans qui est se concentrer sur l'action. Et puis une fois qu'on a bien sûr le cap, parce que le cap nous met en route, oublier l'obsession de l'objectif et des résultats.
J'aimerais citer Mark Twain qui disait « Détournez-vous de ceux qui vous découragent de vos ambitions, c'est l'habitude des mesquins, ceux qui sont vraiment grands vous font comprendre que vous aussi, vous pouvez le devenir. » Bonjour Marie-Christine, bienvenue.
Oui, bonjour à tous et bonne année.
Merci à vous aussi, belle année. Quel est votre témoignage?
Moi, j'ai posé une question un peu iconoclaste et je m'en excuse peut-être par avance, c'était peut-être pas le but de l'émission. Je voudrais savoir si la France, l'esprit français... n'est pas incompatible avec une juste et légitime ambition. Je trouve que par rapport aux pays anglo-saxons, le succès de certaines personnes n'est pas jalousé. Il est admiré, il est peut-être un moteur pour démarrer soi-même une progression. Et je trouve quelque part qu'en France, on est un peu jaloux de la réussite de quelqu'un. Et c'est un terrain miné pour les gens qui ont une légitime, je précise, et claire ambition. Voilà ma question.
Merci beaucoup Dominique, pardon Marie-Christine, Dominique Steller.
Écoutez, c'est vrai, en tout cas si on le regarde dans le monde du travail, on est dans un modèle, si on regarde le modèle anglo-saxon, qui est vraiment un modèle qui pousse vers le haut. Ça serait si je disais les choses positivement. Si je les regarde négativement, on est dans un modèle qui a tellement focalisé son attention sur obtenir quelque chose qui serait un Graal, qui au bout du compte n'est que de l'argent, réellement, une entreprise ne se base que sur le earning per share in English, donc combien je vais tirer de mon action, que c'est ça qui est poussé finalement. Si on le ramène dans ce modèle français, peut-être que ce qu'on voit apparaître aujourd'hui dans notre société avec des résistances, avec de la colère, avec l'expression d'une violence intérieure qui dit il y a quelque chose qui ne me va pas, c'est peut-être bien une belle opposition à cette dimension d'ambition-là.
Merci beaucoup Marie-Christine d'avoir appelé de Montpellier. Et la peur dans tout ça, Ilios Kotsou, vous qui êtes un spécialiste des émotions, ça peut être un frein à l'ambition, la peur?
Bien sûr, puisque la peur, c'est ce qui va se mettre entre nous et ce qui est important. La peur est une émotion très importante puisqu'elle nous dit qu'il y a un danger. Et en même temps, nous n'avons peur que pour les choses importantes. Si j'ai peur parce que mon enfant est malade, c'est bien parce que mon enfant compte pour moi. Et la question, c'est est-ce que je peux identifier la peur, l'apprivoiser pour en faire une amie et retourner la peur pour regarder le désir qu'il y a de l'autre côté. C'est-à-dire que derrière chaque peur, il y a un désir. Si j'ai peur pour quelque chose, c'est que je désire prendre soin d'autre chose. Mais la condition, je pense, pour pouvoir se connecter au désir, à ce qui est important, c'est d'abord d'apprivoiser la peur, de s'en faire une amie. Et donc, parce que les deux manières qui sont ou de lutter contre la peur, elle absorbe toute l'énergie, ou de la nier, et en niant la peur, on nie aussi la direction de vie qui est importante pour nous, ce sont deux impasses.
Est-ce que c'est grave si je n'ai pas d'ambition? Et est-ce que c'est le signe d'un manque de confiance en soi?
Alors de nouveau, ça nous ramènerait à la définition de l'ambition, parce que si ce que vous appelez manque d'ambition, c'est une capacité à vivre joyeusement et pleinement votre quotidien en prenant soin de l'essentiel, je dirais que vous êtes un sage. Et donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Et Amanda nous demande sur la page Facebook, comment trouver l'énergie pour concilier un manque d'ambition presque assumé avec un réel désir de réalisation personnelle?
De nouveau, si j'avais la recette pour un mandat, j'aimerais bien la lui donner. Je dirais que si on va aller chercher en soi ce qui est vraiment important, je pense que la motivation, tout le monde l'a, cette possibilité. Mais parfois, on n'a pas encore été touché, on n'a pas encore été prendre soin de ce qui est vraiment essentiel pour nous. Et peut-être qu'on a aussi un tas de croyances qu'on a récoltées, qu'on a entretenues sur ce qui était possible ou pas. Et donc, aller toucher ça.
Christophe André.
Oui, mais moi, ça me semble pas incompatible. C'est-à-dire, on peut très bien avoir compris tous les dangers qu'il y avait à une poursuite un petit peu obsessionnelle de certains objectifs, notamment matériels, sans que ce soit une pathologie. Et puis surtout, je crois beaucoup, moi, à la psychodiversité. Je pense que dans toute société humaine, c'est bien qu'il y ait des ambitieux. C'est bien aussi, que les ambitieux se méfient d'eux-mêmes, deux, que nous nous méfions des ambitieux, mais trois, qu'ils existent et qu'ils fassent parfois le boulot, les percées. Effectivement, certaines grandes découvertes, pas toutes, sont liées à des personnalités ouvertement ambitieuses, ouvertement arrivistes, ouvertement égoïstes, mais au fond, qui ont rendu service indirectement. Par contre, d'autres grands combats sociaux, Mandela, Rosa Parks, des combats contre la ségrégation raciale aux États-Unis, on pourrait mettre sur ces combats l'étiquette d'ambition, on pourrait aussi appeler ça autrement, la poursuite d'idéaux, de grands idéaux dont parlait Ilios Kotsou tout à l'heure.
Devenir plus ambitieux, c'est développer sa volonté. Comment ne pas tomber dans la procrastination, cette fâcheuse tendance à remettre au lendemain? Comment on s'y prend, Ilios Kotsou?
De nouveau, une recette incroyable. Impossible. Alors, je crois que là aussi, c'est la question des petits pas. C'est comment je peux faire des petits pas? Un pas après l'autre, plutôt que de demander directement un énorme idéal, c'est-à-dire pour aller vers cet idéal-là, quelles sont ces valeurs-là, qu'est-ce que je peux faire au quotidien? C'est vrai qu'il n'y a pas de vent favorable, comme disait Sénèque, pour celui ou celle qui ne sait pas où il va, mais il n'y a pas de bonheur pour celui ou celle qui ne sait pas savourer le chemin à petits pas et qui reste obsédé par la destination finale.
Dominique Steller.
J'aime bien cette petite phrase qui est avez-vous discerné, avez-vous trouvé quel est le glaive de l'esprit? Je crois que ce qui nous rassemble ici, c'est cette idée de la pleine conscience. Et il me semble que pour pouvoir avancer sur ce terrain de l'ambition, si on la garde dans son acception la plus négative telle qu'on l'a présentée, il y a vraiment cette capacité à un moment donné de discerner pour revenir à ce que j'ai à faire maintenant. Revenir dans l'action, revenir sur le beau geste et voir, puisque je vais parler de l'entreprise, une performance quand elle arrive, arriver par conséquence. Saint Antoine disait, elle arrive de surcroît. Et c'est cette par conséquence qui va faire qu'à un moment donné, je vais pouvoir me réaliser parce que même je ne l'attendais pas.
Allez, continuez à témoigner au 01 45 24 7000.
I'm told to be
Seul s'interpréter Be Myself. Alors, Ilios Kotsou de Mick Stellaire, Christophe André, pouvez-vous synthétiser en quelques mots, il nous reste une poignée de secondes, quelques pistes pour devenir plus ambitieux dans sa vie? Allez, Ilios Kotsou.
Alors, une piste dont on n'a peut-être pas parlé, c'est le changement de regard. Comment est-ce que je peux, dans les circonstances de ma vie, m'autoriser à multiplier les perspectives et les regards? Et pour ça, je citerai simplement Proust qui disait « Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ne serait pas d'aller vers de nouveaux pays, première exception de l'ambition, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est.
Dominique Stellaire.
Il y a deux éléments. Le premier, c'est quelque chose qui pourrait se résumer par du soin de soi au souci de l'autre. Et là, j'ai une ambition qui certainement commence à avoir un intérêt. Et une deuxième qui est la prise en compte vraiment de mes puissances, dans lesquelles on va retrouver ce qu'il y avait dans cette ambition très active, et de mes fragilités, dans lesquelles on va retrouver cette ambition qui est d'avancer chemin faisant.
Christophe André.
Transformer ses ambitions en aspirations, réalisation de soi, respect des autres.
Merci beaucoup Ilios Kotsou, Dominique Stellaire. L'ouvrage auquel vous avez collaboré s'appelle « Vraiment ambitieux » dans la collection de Psychologie Magazine, édité chez The Book. Demain, on se demande comment consommer moins de plastique au quotidien, comment faire pour que cette matière miraculeuse, pour parler comme Roland Barthes, y en ait moins dans nos maisons. Dites-nous comment vous faites-vous pour vous désintoxiquer du plastique au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Maxime Ingrand et Nicolas Cazot.